is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa dada.
Galère, livres et amis du 17 avril vous souhaite la bienvenue et vous donne quelques informations sur, d'une part, ce qui se passe à Marseille, ce que j'ai vu sur l'agenda de Mille Babord, et puis d'autre part, les livres qui convient de lire. J'allais oublier, moi. J'étais sur mon papier, j'allais oublier le micro. Donc, ce qui se passe, dès ce soir à 18h, au Parc Chanot, il y a un rassemblement antifasciste, donc vous êtes conviés à y aller. Et aussi ce soir, mais plutôt à 16h31, à la librairie Maupetit, 16h31, je ne sais pas pourquoi je dis 31, c'est 30, j'ai un peu serré mon zéro. Hein. Et là, c'est le Boulec Teston d'Attaque de Marseille qui va présenter une série de bouquins. Voilà, Boulec Teston à la librairie Maupetit. D'habitude, c'est la librairie Transit dont on parle, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. À 18h30, au local de Solidaire, ils fêtent la journée des prisonniers palestiniens et notamment, ça sera consacré à Georges Ibrahim Abdallah. Enfin, 18h45, c'est à Aix, c'est un peu loin, mais pas tant que ça après tout. Hein. Et c'est important de savoir qu'il y a un collectif qui s'appelle Stop Tafta et CETA. C'est un collectif réunissant des militants de Aix, Salon et Gardanne. Et c'est leur réunion qui est annoncée. D'habitude, on n'annonce pas tellement réunion, mais ce qui est intéressant, c'est quand même l'ordre du jour qui est quels sont les projets actuellement dans l'Europe, quelles sont les campagnes envisagées pour s'y opposer, quel est l'état des lieux dans la région. On passe à samedi, bizarre, mais le jeudi, le vendredi, rien du tout. À ce que je sache, c'est à la librairie Transit, une grande journée dominée par la poésie algérienne. Toute une liste de poètes sont prévus et ça durera toute la journée de 10h à 19h. C'est pas fini. Dimanche à 12h30, Darlamifa, c'est la cantine solidaire. C'est en prévision de la grande journée du 5 mai qui va fêter les 5 mois de la catastrophe et prendre de l'argent. Et collecter, je veux dire, de l'argent. Je passe maintenant au livre. Et ce n'est pas un livre, c'est un film dont je vais vous parler. C'est Lucie Paul, ces femmes-là, Gérard Mordillat. C'est d'ailleurs inspiré d'un livre, un essai de Michel Perrault. Et il s'agit des femmes qui étaient syndicalistes, notamment Lucie Paul, dont on n'a pas assez parlé, et qui a été la première femme syndicaliste, Brignoles. Ça se passe à Brignoles d'abord, mais aussi à Aix. Alors à Brignoles, il y a avec le soutien d'économistes, c'est pas joli ce nom, hein, et ils vont présenter le film Mélancolie ouvrière. C'est ce film qui est dédié à Lucie Paul. Le vendredi 26 à 20h30. Ah ben, j'avais dit qu'il n'y avait rien le vendredi, mais si, j'avais oublié une partie de ma fiche. Et enfin, c'est au cinéma, là, un cinéma qui s'appelle La Boîte à Images. Et le tarif unique, ils ont pris soin de le dire, est de 6 euros. Enfin, le samedi, c'est-à-dire à la librairie Le Bateau Blanc, 15h30 à 17h30, Gérard Mordillat fera des dédicaces. Voilà pour ces femmes-là. Hein, nous saluons le titre général de cette initiative de Brignoles. Et Les Racines de la Colère, là, c'est un livre de Vincent Jaroussian et c'est le livre du mois choisi par Attaque. C'est aux éditions Les Arènes et Il a paru en 2019. Autre livre, Machin, de Marilyn Debiol. Machin, je me suis dit, tiens, drôle de titre, mais c'est le nom d'un véritable personnage, un cinéaste, qui racontait par son fils à un autre de ses copains. 15 euros, 164 pages. Enfin, un titre étonnant aussi, Le matin est un tigre. Et il s'agit d'une mère qui est étouffée par l'angoisse devant la mort de sa fille, devant la maladie de sa fille, qui a un nénuphar, on pense évidemment à Boris Vian, qui se développe, je ne vous dirai pas la fin, en tout cas, saluons cet hommage à Boris Vian. Et l'auteur de ce matin, Le matin est un tigre, c'est Constance Joly. Je note aussi Récidive de Michael Fessel. C'est consacré à l'année 38, où on voit les comparaisons avec ce qui se passe aujourd'hui. Et Parole de français anonyme au cœur des années 60. Et c'est... oh là. Et c'est ça se passe dans le Limousin. Là, mon quotidien La Croix avait nettement une préférence pour les paroles des Français anonymes. C'est un livre, c'est une recherche qu'a fait un historien depuis les années 70 et qui fait parler les gens. Mais c'est de 34 à 36, donc ce n'est pas exactement le même moment. Et La Croix dit que Fouessel s'occupe trop de l'extrême droite et que l'autre, eh bien, il pouvait parler la France profonde. Je crois que je vous avais peut-être même déjà parlé de Michel Fessel, et il me semble que c'est important quand on pense par exemple à l'ordre du jour qui montre que les choses pouvaient être évitées. Et c'est ce que montre Michel Fessel et pas ceux de la France profonde. Voilà pour les nouvelles. Et maintenant, maintenant nous allons passer à la première partie de cette émission, qui va être divisée en deux parties. Vous vous souvenez peut-être qu'on n'avait pas lu la dernière lecture, c'est celle de Innocent Ruiliza, page 90, et c'est qu'il revient sur un massacre qui a beaucoup fait parler, le massacre à l'église, et c'est des réflexions, elle se termine par des réflexions sur le fait de se séparer, parce qu'il s'est séparé de sa femme.
Innocent Ruiliza, qui appréhende d'affronter trop d'ombre chez lui, est l'un des piliers les plus populaires de la Grand-Rue. 10 ans de scolarité sur les collines et 15 d'enseignement en ville lui ont permis de connaître tout le monde. Il est le secrétaire de l'inspection scolaire et l'initiateur de plusieurs associations d'entraide. Il est l'un des 20 survivants héroïques de la forêt de Kayumba. Il n'est d'aucun clan, mais de tous les coups de main. Il recourt à la dérision avec tendresse, exprime ses idées avec gentillesse, ne devient nerveux que lorsqu'on parle église où a péri sa première épouse. Épiphanie, sa seconde épouse, lui a déjà donné 4 enfants. Nous lisons la suite du livre de Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie, récit des marais rwandais.
Et ce personnage qui parle est un personnage qui, avec l'assistante sociale qui l'a contactée parce qu'elle s'occupait des enfants orphelins, et quelqu'un avec qui il s'est lié d'amitié et qui a pu lui parler plus longuement que d'autres témoins de ce livre qui parlent plus brièvement. Et maintenant,
le massacre de l'église. À l'église. Le jour du massacre à l'église du haut de Kayumba, on a entendu les grenades et on a vu les fumées. Ma femme et mon enfant s'étaient réfugiés à l'intérieur. 4 jours plus tard, j'ai croisé dans le bois une maman qui avait échappé au massacre. Elle m'a dit « Innocent, j'amène une mauvaise nouvelle. J'ai croisé ton épouse dans la mêlée à l'église. Dans l'état où je l'ai laissée, je dois te dire qu'elle n'est plus de ce monde. » J'étais assommée, mais j'espérais encore. Je me disais « Si personne n'a vu sa dépouille, peut-être elle a pu échapper, elle aussi. » Encore aujourd'hui, des années plus tard, quand j'aperçois au loin une silhouette qui ressemble à la sienne, je sursaute dans la rue. C'est très éprouvant de vivre avec une fausse espérance. Je peux dire aujourd'hui que survivre avec le souvenir de son épouse et de son enfant, quand on ignore comment ils ont été tués, quand on ne les a pas vus morts et qu'on ne les a pas enterrés, est la chose la plus décourageante. Je ne pouvais pas emmener ma femme et mon fils sur la colline de Kayumba parce qu'ils ne couraient pas assez vite. Je ne les ai pas suivis à l'église, qui est la coutume réservée aux personnes faibles. Je me disais, puisque tu vas mourir, tu dois quand même essayer de durer 2 ou 3 jours de plus. Voilà pourquoi nous nous sommes quittés. Mais il y a une autre raison, un peu délicate à expliquer, pour laquelle on s'est séparés, et que je me dois d'ajouter. Voilà. Quand tout le monde doit mourir dans une famille, quand tu ne peux rien faire pour sauver ta femme ou alléger ses souffrances, et elle, pareillement, c'est mieux d'aller se faire tuer ailleurs. Je m'explique plus précisément. Si ce n'est pas toi qui vas mourir le premier, si tu vas entendre les cris de ton papa, de ta maman, de ta femme ou de ton enfant, et si tu ne peux bouger une main pour les sauver, ou même pour les aider à mieux mourir, tu vas mourir à ton tour dans le gâchis des sentiments qu'il y avait entre vous, au bon temps, parce que tu vas te sentir trop coupable d'une situation qui te dépasse complètement. Un terrible sentiment de honte va t'envahir à l'ultime moment et va l'emporter sur l'amour, la fidélité et tous ces sentiments-là. À la frontière de l'existence, tu vas te faire confisquer même les souvenirs des moments heureux qu'elle t'avait pourtant donnés. Voilà pourquoi j'ai pensé, c'est peut-être mieux d'être coupés les uns des autres, hors des yeux les uns des autres.
Voilà, on peut penser que c'est étonnant qu'il n'ait pas voulu rester auprès de sa femme, mais il donne une explication et on sent que cette confidence, il l'a faite après un moment et c'est très important pour lui. Pourtant, il a une seconde femme et 4 enfants, mais la douleur et le sentiment de culpabilité restent intacts. Il faut dire que le théâtre là de l'horreur est différent. On était la semaine dernière dans les marais, dans la boue, dans l'eau. Et maintenant, c'est une forêt d'eucalyptus. Et la forêt d'eucalyptus permet aux Hutus, aux interarmées, de faire des embuscades. C'est-à-dire qu'ils repèrent un groupe, ils se précipitent, ils essayent de l'entourer. Il s'agit de courir très vite. Il le dit d'ailleurs. On n'a pas été long à être sauvés. Ils étaient 5 sur un contingent dans leur groupe d'une 20aine de personnes, parce qu'ils se répartissaient en petits groupes pour échapper aux interarmées. Et lui, il court très vite. Et il avait dit, ma femme ne pouvait pas courir aussi vite, donc je l'ai laissé dans l'église. Et il croyait que dans l'église, elle serait protégée, mais pas du tout. Et on sait d'ailleurs, merci à la revue Goliath, que les prêtres ont été des génocidaires aussi, notamment les prêtres qui étaient dans la hiérarchie, ils étaient pour les Hutus, tandis que les prêtres de la base, ben, ils étaient plutôt pour les Tutsis. Voilà pourquoi. Et cependant, il a tenu, parce que, comme nous l'a dit Jean Svelte, il a un certain humour, ce personnage, et eh bien, il tient à nous faire savoir qu'il y a des Hutus qui ne sont pas comme les autres. On a déjà vu des gens qui avaient de la pitié, et là, c'est encore autre chose.
Mais je crois que les Hutus, de nous voir ainsi vivre comme des sauvageons moins que rien, ça leur facilitait le travail, surtout ceux qui n'étaient pas animés de la haine de massacrer. Un jour, nous étions un groupe et nous avons surpris 3 Hutus. Ils étaient distraits et ils s'étaient laissés isoler. On les a encerclés. Ils se sont assis au milieu sur les feuilles. Parmi nous, il y avait un type qui courait avec à la main des flèches ramassées par terre. On a expliqué. Bon, la chose a tourné. Cette fois, c'est nous qui allons vous tuer avec les flèches. Un vieux nous a imploré. Non, non, pardon, ne nous tuez pas. Je lui ai dit. Ah bon? Et pourquoi? Vous passez vos journées à nous couper et maintenant vous pleurez pour ne pas être percés? Il m'a dit. Ce n'est pas ma faute. C'est la commune qui veut ça. C'est en bas qu'il nous oblige à faire tout ça. Je lui ai demandé. Si c'est vrai, pourquoi ne pas venir passer toute la journée à l'ombre, sans toutefois tuer jusqu'au soir, ensuite redescendre à Nyamata, bien reposé, et garder le bon œil des autorités? Il m'a répondu, « C'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé. » Je me suis mis à crier, très fâché. « Tu n'avais pas pensé que tu pouvais ne pas nous tuer ?» Il répondit, « Non, à force de tuer, On avait oublié de vous considérer.
Voilà. Les Tutsis, ils sont déshumanisés dans le regard de ceux qui les tuent. Et on va quand même vous lire qui sont les principaux responsables du génocide. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui coupaient, comme on disait, c'est-à-dire découpaient les pauvres paysans dans ce bois d'eucalyptus.
J'ai lu qu'après chaque génocide, les historiens expliquent que ce sera le dernier. Parce que plus personne ne pourra plus accepter une pareille infamie. Voilà une blague étonnante. Les responsables du génocide au Rwanda ne sont pas les cultivateurs pauvres et ignorants, pas plus que les interahamwés, féroces et alcooliques. Ce sont les gens instruits. Ce sont les professeurs, les politiciens, les journalistes qui se sont expatriés en Europe étudier la Révolution française et les sciences humaines. Ceux qui ont voyagé, qui sont invités dans les colloques et qui ont reçu les Blancs à manger dans leur villa. Les intellectuels qui ont acheté des bibliothèques hautes jusqu'au plafond. Eux-mêmes n'ont guère tué de leurs propres mains, mais ils ont envoyé les gens faire le travail sur les collines. À Nyamata, le président des Interahamwe se prénommait Jean Désiré. Il était un bon enseignant. Parfois, on se partageait une primus en amitié. Il nous disait « Bon, si les Inkotanyi entrent au Rwanda, on sera obligé de vous tuer. » Et des choses pareilles. Mais comme il était gentil, on rigolait de ça et on lui offrait une autre bière. Cet homme, avec qui on se racontait des drôleries, s'est montré par la suite être l'un des 3 ou 4 promoteurs du génocide dans la région. Le génocide n'est pas vraiment affaire de misère ou d'un manque d'instruction. Et je m'en explique. Je suis enseignant, donc je pense que l'instruction est nécessaire pour nous éclairer sur le monde. Mais elle ne rend pas l'homme meilleur, elle le rend plus efficace. Celui qui veut insuffler le mal, il sera avantagé s'il connaît les manies de l'homme, s'il apprend sa morale, s'il étudie la sociologie. L'homme instruit, si son cœur est mal conçu, s'il déborde de haine, il sera plus malfaisant. En 1959, les Hutus avaient tué, chassé, pillé sans relâche les Tutsis. Mais ils n'avaient pas imaginé un seul jour les exterminer. Ce sont les intellectuels qui les ont émancipés, si je puis dire, en leur inculquant l'idée de génocide et en les débarrassant de leurs hésitations. Je ne nie pas les injustices envers les Hutus sous le règne des rois Tutsis, les excès de richesse ou d'autorité. Mais c'est tellement ancien que l'Université nationale de Butare n'a jamais diplômé un seul historien rwandais capable d'écrire un livre convenable sur ces royautés. En tout cas, les Tutsis n'ont plus commis aucune méchanceté depuis 1959, puisqu'après les élections, les militaires sont devenus Hutus, les bourgmestres, les préfets, les policiers pareillement Hutus. Même les directeurs des bureaux de poste étaient Hutus. Les Tutsis, eux, ils multipliaient l'élevage, ils enseignaient dans leur classe, ils développaient leur commerce et ils s'habituaient à se laisser humilier en de traditionnelles occasions. Ce sont donc des intellectuels Hutus sans doléances qui ont planifié la suppression des Tutsis.
Voilà, c'est une mise en cause des intellectuels. Bon, on laissera de côté le fait qu'il dit que le savoir n'arrange rien, mais en ce qui concerne le Rwanda, c'est bien ce qui s'est passé. Et c'est vrai que le texte que vous venez d'entendre s'érige pour discuter ce qu'on a pu dire, c'est que les Hutus du temps de la colonisation belge étaient défavorisés par rapport aux Tutsis, et que c'était donc leurs conditions défavorables qui, après l'indépendance, avaient fait qu'ils avaient pris le pouvoir. Il y a eu des élections d'ailleurs, hein, et après des révoltes paysannes Hutus. Et c'est ainsi qu'ils ont pris le pouvoir et que Habyarimana, eh ben oui, il était un Hutu. Et il dit tout est devenu Hutu, c'est-à-dire que les Belges ont mis les Hutus aux places qui étaient des places de pouvoir et ont mis de côté les Tutsis. Et à remarquer aussi, ils s'entendaient bien, c'est la deuxième remarque que je ferai après cette lecture, ils s'entendaient bien avec le professeur qui était Hutu et qui pourtant a été l'un des génocidaires les plus dangereux qui est parti vers le Congo et qui a été maintenant condamné très, très gravement. À noter aussi, on a beaucoup parlé de l'opération turquoise. Alors, opération turquoise, en principe, c'était pour créer un corridor humanitaire. Mais en fait, l'opération turquoise, elle a consisté à exfiltrer tous les Hutus qui, après la victoire de Kigali, sont partis dans des camps au Congo. Et il faut noter aussi, là, il ne le dit pas du tout, parce que visiblement, il veut que les solutions soient politiques et pas du tout militaires. Mais il faut bien voir qu'en juillet 1994, le FPR a pris le centre de Kigali. Et à ce moment-là, on a vu les gens dans les marais qui étaient tirés de la boue et de l'horreur par ce qu'elle appelle nos libérateurs. Mais lui n'en parle pas. Et pourtant, il a bien conscience de ce qui s'est passé. Et je trouve que la mise en face à face de l'enseignant Hutu et de l'enseignant Tutsi est pleine d'enseignements, parce que après 59, eh bien, ils ne se méfiaient pas du tout. Et puis, en fait, c'est arrivé. Il y a un autre livre qu'on vous a lu et qui s'appelait Notre-Dame du Nil. C'est un pensionnat pour jeunes filles catholiques ou protestantes, je ne sais plus, parce qu'il y a beaucoup, de chrétiens, mais oui, peut-être bien catholiques. Et là, il y a très peu de Tutsis, mais qui sont quand même admis, et beaucoup de filles Hutus de bonne bourgeoisie. Et celle qui écrit est une élève qui ne voit pas venir au début, puis qui voit venir qu'il va y avoir des opérations terribles, et elle arrive à s'en tirer. C'est aussi une leçon qu'on peut tirer de ce livre, c'est qu'on ne voit pas toujours venir ce qui est le plus grave, et on s'occupe de nos affaires de parti, par exemple la gauche qui n'est pas unie, on déplore ça, et on ne voit pas ce qui monte et qui est très très grave et qui peut être très très dangereux. Nous sommes arrivés à la moitié de notre émission, et on va maintenant, après un peu de musique africaine, pour rester en Afrique quand même, revenir à ce qui est prévu pour cette semaine, la cantine des Pyrénées en lutte. Ce sont des textes et des témoignages collectifs. Galère, galère.
À côté, gentil ou même ou à moins, il est toujours pareil. Et dans mon cœur, où les mots pliquent en soutien, mons alors, pour sortir pour nous mains. Elle rappelle à Ouest-Nin à bien des années, nous que t'es y battre la chamade pour nous causer. Et dans mon cœur, tout cela n'a pas changé. Regarde ou même, nous y encore qu'on les serrer. Reste la même, mon moitié, mon chemin, sans vous moins les rien, bien pas quand vous les loin. Et reste la même, mon moitié, mon chemin, sans vous moins les rien, bien pas quand.
Avant de prendre la lecture de la cantine des Pyrénées, un mot de conclusion que j'ai oublié de dire. Il y avait un problème, c'était le problème du pardon, puisqu'il y a eu, des confrontations, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, et des commissions, vérité et réconciliation. Eh bien, à entendre ce que vous avez entendu, et mercredi dernier et aujourd'hui, la réconciliation n'est guère possible, le pardon n'est guère possible, étant donné la force de la haine des Hutus auxquels ils ont été confrontés et l'horreur des blessures qu'ils ont reçues. Mais cependant, il y a d'autres témoignages, et j'ai lu dans pour journal, on voit assis sur un banc, sorti d'une église, deux hommes et une femme, les deux hommes sont deux anciens camarades de classe, hein, c'est pas les professeurs comme tout à l'heure, l'un est Tutsi, l'autre est Hutu, et ils discutent après la messe. Ça, la photo date du 2 mars, et Pascal, qui est à droite de la photo, avec son épouse, a été un des assassins du père de Jean Bosco. Vous voyez, il donne les noms à gauche. Et par conséquent, il y a des réconciliations possibles. On le voit aussi dans un autre livre de Jean Asveld, Gaspard des Collines, où il dit je vais dans les bistrots, je vois des gens qui ont commis des massacres, mais si personne ne parle du passé, je reste. Et si on en parle, je m'en vais parce que je ne supporte pas ça. Voilà comment se jouent les choses. Et il faut bien voir que le pouvoir de Kigali avec Kagame, il dit qu'il faut gommer les divisions ethniques, Hutu et Tutsi. Et maintenant, ils sont tous rwandais. Le nationalisme va l'emporter. Il faut dire aussi qu'on a l'idée que les Tutsis et les Hutus, c'était que au Rwanda. Mais non, il y a des Tutsis qui sont dans toute cette région d'Afrique et la région des Grands Lacs, et qui sont un peuple qui a bien son identité. Mais ils ont décidé au Rwanda d'être d'abord des Rwandais et de ne pas insister sur leur identité ethnique. Et de même, il se passe la même chose au Burundi, bien que ce soit inversé au point de vue du pouvoir. C'était les Tutsis qui étaient au pouvoir et les Hutus qui étaient la classe dominée. Galère. Après cette mise au point que je tenais, vous m'excuserez d'avoir oublié. C'est la faute de nos rhumes. Et nous allons voir ce qu'est la cantine des Pyrénées. Figurez-vous, elle n'est pas dans les Pyrénées. Non, non.
Elle est dans la rue des Pyrénées.
Elle était dans la rue des Pyrénées, maintenant à la rue de la Mare, dans le 20e arrondissement de Paris. Et je veux citer l'éditeur, bien sûr, c'est les éditions Repas, et c'est une collection pratique utopique, et l'éditeur, il est à Valence. J'ai essayé de me renseigner, mais je n'ai pas pu en savoir plus. Et cette cantine, elle est son lieu, c'est d'abord rue des Pyrénées, comme on disait, et puis maintenant rue de la Mare, dans le 20e arrondissement de Paris. Il se présente dans cet ouvrage en plusieurs en photo, c'était la photographe, et plus d'une vingtaine de témoins ont pris la parole. Donc ce livre est un livre qui est un livre collectif. Et quand il n'y a plus de projet révolutionnaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre autre chose? C'est ce qu'ils veulent. Et la raison de la cantine, ils ont dit que le premier projet, c'était autour de 2010, au sortir de la lutte contre la réforme des retraites. Donc, on parle toujours de 68, mais il y a des luttes qui ont bien changé. Et un texte est diffusé. Et le quartier, ils ont choisi une cantine de quartier, est à la fois modeste et puis opératoire. Et écoutez l'appel qu'ils ont donc diffusé.
Parallèlement, le texte engageait une critique dont les auteurs ne s'excluaient pas du fonctionnement en vase clos du milieu militant auquel nous appartenions. Un petit microcosme revendiquant des idées révolutionnaires, agissant souvent dans l'entre-soi et dont les discours et les pratiques politiques avaient une portée limitée. L'idée n'était donc pas de reproduire un nouvel espace intramilitant, mais de faire tourner à l'échelle locale un collectif d'entraide ouvert et accessible à tous. Enfin, le texte invitait les militants marxistes et anarchistes, ou pour utiliser un terme plus globalisant, libertaires, à une assemblée pour partager nos réflexions et éventuellement se joindre à nous. Une cinquantaine de personnes participèrent à cette première assemblée. Plusieurs réunions se sont ensuite tenues avec pour objectif la location d'un local. Progressivement, la taille du groupe s'est réduite jusqu'à former un noyau dur d'une vingtaine de militants prêts à s'investir dans la recherche de locaux. Pour beaucoup, nous nous étions déjà croisés dans des mouvements sociaux ou bien dans divers collectifs de lutte. Un certain nombre avaient une expérience des squats, soit parce qu'ils y avaient habité ou y habitaient encore, soit pour avoir participé à des luttes relatives à la question du logement. Parmi ces luttes, bien que la liste ne soit pas exhaustive, deux occupations ayant précédé la cantine des Pyrénées, se détachent tout particulièrement. La première est celle de la clinique à Montreuil, un énorme bâtiment qui, de janvier à juillet 2009, fut un lieu d'habitation et un espace d'organisation politique et d'activités diverses. La clinique a ainsi participé au développement de solidarité et d'actions locales, par exemple autour des questions du logement ou des sans-papiers, jusqu'à son expulsion 6 mois seulement après son ouverture. Si cette expérience fut d'une grande richesse, notamment en matière de mobilisation, de rencontres et de liens tissés avec le voisinage, il n'en demeure pas moins que sa brièveté nous fit prendre conscience de la nécessité d'obtenir un lieu pérenne afin de faire tenir une telle initiative dans la durée. La seconde occupation est celle du 260, un immeuble vide du 20e arrondissement appartenant à la Poste, qui fut squatté par un collectif de mal-logés en 2012. Pour ceux d'entre nous qui y ont pris part, l'expérience du 260 a mis au jour les rapports compliqués, les dissensus et les motivations parfois divergentes entre, d'une part, les occupants du lieu luttant pour leur relogement et, d'autre part, les soutiens militants qui cherchaient à insuffler un mouvement de contestation et de transformation sociale plus large. Parmi une vingtaine de militants de ce noyau dur à l'origine de la cantine, tous n'ont pas participé à ces occupations. Nous avions des trajectoires de vie et des expériences militantes diverses. Nous ne nous connaissions pas tous personnellement, mais nous nous rejoignions sur des bases politiques, notamment anticapitalistes, et sur la volonté de renouveler nos pratiques militantes. Nous étions animés par le désir de s'ouvrir et de s'organiser avec toutes sortes de gens. Nous voulions donc ouvrir et faire fonctionner, non pas un énième local réservé aux militants, ni un petit commerce spécialisé dans les services sociaux, mais un lieu qui puisse accueillir des activités ouvertes sur un quartier, des activités simples, accessibles sans prérequis culturels ni formation politique, un lieu qui articulerait activités d'entraide et organisation politique, solidarité effective et résistance collective.
Alors voilà comment tout ça s'articule. On voit l'importance des squats, hein, parce que ceux qui se réunissent, eh bien, ils ont l'expérience des squats et ils en parlent plutôt. Ils en parlent. Et puis alors, deuxième colonne de l'affaire, on voit que ce sont des militants anticapitalistes et ce sont des militants qui font la critique de leur militance qui les a amenés à trop se refermer sur eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé par chercher des subventions après avoir lancé leur appel avec une certaine chance. Hein, 50 personnes à la première réunion. Bon, il n'en reste pas beaucoup, mais un noyau dur. Et là, ils ont commencé par fin 2012, je prends un peu les dates, hein, ils ont eu l'opportunité de squatter un restaurant qui était laissé à l'abandon. Et début janvier 2013, c'est le fameux 331 rue des Pyrénées qu'ils aménagent. Et ils aménagent l'espace de façon qu'il y ait une mixité sociale. Et puis, ils ont fait un grand panneau à l'entrée et avec ceci n'est pas un restaurant. Ils ont eu une affluence grandissante de 50 à 60 couverts. C'est ce que j'ai entendu dire aussi à Marseille. Hein. Mais c'était rare qu'on arrive aux 60 couverts tous les jours à midi. Et c'est important de noter, leur repas, ils sont à 5 euros, entrée, plat et dessert, je ne sais pas comment ils font, et qu'ils ont même remis à 4 euros. Et là, il y a je vais vous faire une lecture brève, c'est celle de l'affiche qui est à l'entrée.
Nous avons occupé ce lieu parce qu'à plusieurs, on est plus fort pour affronter nos galères, nos problèmes d'argent et nos difficultés face aux institutions et aux patrons. Nous ne pensons pas qu'un monde meilleur soit possible à l'intérieur du capitalisme. Nous ne voulons ni compenser les faiblesses de l'État, ni créer une bulle alternative à l'intérieur de ce système. Ce lieu doit permettre de consolider des solidarités qui existent déjà un peu partout entre exploités.
Voilà. Et ils font l'expérience avec ces militants qui se mélangent à d'autres qui ne sont pas militants. Et parce que ils passent l'affluence au restaurant à cause de son prix pas cher, ça compte. Hein. dépasse de loin ce qui est le collectif militant du départ.
Aussi, par la forme même de l'action, les rapports sociaux furent en partie transformés au sein du lieu. Les activités de la cantine entendaient rompre avec la distinction entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, d'où une certaine réticence à employer les termes qui accompagnent souvent ces divisions, comme bénévole, volontaire ou bénéficiaire.
On connaît ça, Radio-Galère, bénévole et volontaire.
C'est d'ailleurs ce qu'indiquait un des textes affichés à l'entrée. Chacun, chacune peut rejoindre la cantine, les ateliers ou les permanences déjà en place, proposer d'autres ateliers, organiser des réunions publiques sur des luttes locales, un repas pour remplir des caisses de grève, une discussion, une projection, etc. Dans une logique d'entraide à rebours de la spécialisation et de la hiérarchisation des tâches, la cantine a permis au public local de s'investir, selon leur temps et leur énergie, dans des diverses activités. En octobre 2013, par exemple, un habitant du quartier menacé d'expulsion était venu exposer sa situation à la cantine. Des petits déjeuners faisant office de tour de garde furent organisés devant chez lui jusqu'à la trêve hivernale, à la suite de quoi une permanence logement a été mise en place tous les samedis après-midi.
Et voilà comment il fonctionne. Il dit que ça s'est bien passé, qu'ils n'ont dû déplorer que deux exclusions, l'une pour racisme, l'autre pour sexisme. Mais il reste un problème épineux quand même, c'est celui des âgés. Les âgés rassemblent les militants et c'est pas suffisant. Et il y a une grande difficulté qui n'est pas résolue parce qu'il y en a qui ont plus de facilité de parole en public et qui s'imposent plus que d'autres. Et à partir... Mais tous ces problèmes qui n'ont jamais été résolus, ils le disent, hein, ce problème de tenir une assemblée générale, ont été arrêtés parce qu'il y a eu une grande urgence. C'est qu'à partir de septembre 2013, risque d'expulsion qui était grandissant. Et alors, ça a permis une nouvelle phase. Si on avait le temps, je mettrais un peu de musique, mais on ne va pas le faire. Avant, l'intégration... Il faut reloger la cantine et il faut. Ce souci-là était prioritaire avant le fait d'intégrer les nouveaux. Et on recherche un nouveau lieu. On est le 8 août 214, pendant les vacances, la mairie et la préfecture de police vont fermer la cantine des Pyrénées. Il faut rechercher un nouveau lieu. 21.
Nous avons ainsi mis à profit cette période de recherche d'un nouveau lieu en essayant de concevoir une autre manière de nous organiser pour donner forme à un nouveau fonctionnement qui soit plus clair et le plus transparent possible. Les habitants d'un même quartier qui se retrouvent à la cantine ont des conditions de vie très différentes, des parcours singuliers, un rapport au monde du travail et à leur famille qui leur est propre. Des personnes ont pu donner un peu de leur temps de manière occasionnelle ou régulière. D'autres ont souhaité s'engager dans des réflexions plus profondes autour de l'atelier dans lequel elles étaient investies. Certaines, enfin, ont exprimé le désir de s'impliquer également dans l'organisation technique, administrative et politique de la cantine. Bien que le projet porte une perspective et un imaginaire émancipateur, la cantine n'a pas pour autant une puissance magique qui la tiendrait suspendue en dehors ou au-dessus de la société. Les contradictions, les logiques de domination, les rapports de classe, les inégalités de genre, etc., traversent également le collectif et ce serait faire l'autruche que de prétendre pouvoir facilement les effacer. Sans avoir ni l'ambition ni la prétention de les résoudre à notre petite échelle, nous avons décidé, durant cette période charnière, d'établir un fonctionnement transparent afin de rendre visibles les rapports de pouvoir existants et ainsi de nous donner les moyens de les dépasser collectivement. En conséquence, le fonctionnement qui a été forgé pendant la période qui sépare les deux cantines s'efforce d'organiser plusieurs façons de participer au projet. Celui-ci s'articule autour d'un collectif d'une douzaine de personnes qui, lors des réunions hebdomadaires, s'occupent des tâches administratives, la comptabilité, le planning, la gestion des mailing lists, etc., et décident des activités qui se déroulent au sein du lieu. En ce sens, le collectif est garant des principes politiques sur lesquels l'expérience de la cantine est fondée depuis son origine. Aussi, Lorsqu'une proposition est faite, par exemple de lancer un nouvel atelier, il s'interroge sur sa pertinence au regard de trois critères : son accessibilité, sa réappropriation possible et son aspect subversif.
Voilà, ils passent en revue ce qu'ils appellent les actions de la cantine en action. Et ce sera par exemple le cours de français, la permanence des sans-papiers. Et puis un texte qui est amusant et que je vais vous faire lire, ça s'appelle « Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes ».
Il y a aussi un petit paragraphe, le rôle du fric.
Oui, oui, c'est important. Allons-y.
À partir du constat de l'impossibilité de la gratuité, la décision avait été prise de fixer un prix indicatif correspondant à la prévision de gestion des frais. 5 euros les premiers mois, réajustés à 4 euros par la suite. Mais l'impossibilité de payer ne faisait aucunement obstacle à la participation à la vie du lieu. Ceci était affiché sur les murs et dit clairement à toute personne entrant pour la première fois. Il nous a semblé que par rapport au prix libre, cela déchargeait les convives de la nécessité de se situer par rapport au projet, cantine, à chaque fin de repas, et que cela donnait une grande fluidité au rituel de paiement, à la, aux serveuses, serveurs, au bar, après le café. Une petite boîte permettait de laisser un éventuel supplément.
Voilà comment ils règlent le problème du fric. Et moi, j'ai vu ça. Peut-être qu'on vous a déjà parlé dans d'autres émissions de la cantine du Midi, qui n'est pas loin d'ici, et qui a aussi ou bien de El Mamba. Mais El Mamba, là-bas, ce n'est pas un restaurant. Tandis que la cantine du Midi, c'était un restaurant. D'abord, un restaurant écolo, ça s'appelait la Cuisine, K-U-Z-I-N. Et puis ensuite, c'est passé à la cantine du Midi. Moi, je m'étais dit, c'est une cantine, quoi.
C'est
rue Bernard.
Oui,
c'est rue Bernard. Ouais. Ah, oui. Mais la salle est petite, mais ils font des repas de solidarité, ils font des animations. C'est la même chose. Donc,
oui, j'ai une copine qui fait des repas et l'argent récolté sert à faire passer le permis de conduire à des femmes.
Ben voilà, c'est drôlement bien. Comme quoi, hein, un livre, là, ça nous ouvre sur, non pas sur des livres, mais vraiment sur l'extérieur.
Alors, prolétaires de tout pays, qui lave vos chaussettes ?
Voilà, voilà.
Nous avons réalisé ce panneau suite à la mort d'une femme poignardée par son conjoint dans une des rues voisines de la cantine. Chaque jour, les violences faites aux femmes sont silenciées ou traitées comme des faits divers, et lorsqu'un meurtre est commis, il est souvent considéré par la justice comme un crime passionnel. La passion est souvent perçue comme une circonstance atténuante.
Crime passionnel, entre guillemets. Hein.
Et chaque jour, en France, elle justifie le fait que des femmes se fassent tuer. Des femmes ont voulu dénoncer ces violences sexistes afin d'appeler à la résistance face à leurs conditions. Certes, nous, femmes occidentales, nous avons déjà obtenu beaucoup par la lutte. Ces acquis ne doivent pas nous faire oublier que l'exploitation et la domination des femmes en Occident et partout dans le monde n'a jamais cessé et qu'ils ne protègent en rien des viols, des coups, de la mort. La société profondément sexiste et patriarcale s'appuie sur notre domination et notre exploitation. Et comme le dit le slogan « Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?» Face à cette situation, face à l'exploitation des femmes et à la violence que nous subissons dans tous les domaines de notre vie, tous les jours et partout dans le monde, face aux viols, aux violences, aux meurtres, soyons unis. Nous pensons que la meilleure riposte face au patriarcat et la solidarité des femmes entre elles. La lutte des femmes, pour les femmes et avec les femmes.
Et voilà. Alors, remarquez, ils ne mettent pas en cause, à l'intérieur de leur groupe, les relations entre les sexes. Mais là, ils sont aussi très internationaux parce que, songeons que, il y a à l'heure actuelle, j'ai écouté ce matin à la radio, des femmes qui n'osent pas rentrer chez elles, par exemple en Côte d'Ivoire, parce qu'elles ont fait, elles ont participé à un match et qu'elles craignent, en rentrant chez elles, de se faire agresser. Parmi les autres actions, on peut citer le cinéma de la cantine. Tous les dimanches soirs, ils ont une séance de cinéma. Page 149.
Là, tu m'étonnes un peu sur 149.
Page 49, qu'est-ce que
d'accord.
J'ai dit
parce qu'il n'y en a pas 149. Non. Le cinéma de la cantine. Le cinéma de la cantine voulait s'appeler le ciné de quartier, parce qu'on ne prétendait pas s'adresser qu'aux grands cinéphiles, mais à tous ceux qui avaient envie de regarder un film à plusieurs le dimanche soir. Certes, le confort des bancs en bois était plutôt rudimentaire, l'image projetée sur le mur pas toujours droite, mais c'était gratuit, et la cantine sentait le pop-corn ou la quiche en train de cuire dans le four. Après le film, l'apéro goûté, sans alcool, était le prétexte à des discussions informelles ou à des débats animés. Documentaire, science-fiction, comédie dramatique, grâce aux vidéoprojecteurs de Jani, aux DVD et aux idées des spectateurs, la programmation s'aventurait bien au-delà des années 50. Plusieurs fois, la salle fut pleine à craquer, mais la plupart du temps, le ciné regroupait seulement un petit noyau d'habitués qui pouvait ainsi reprendre du rap de gâteau tranquillou. Océane à la technique, Patrick à la présentation et aux anecdotes de tournage, Filou aux crêpes, Moussa, Pierre Arnaud, Jani, Jean-Noël, Djibi, Claudine, Maryse. On recommence quand vous voulez, avec la boîte à idées, le goûter et les coussins sur les bancs.
On voit que pour le moment, le cinéma, il est arrêté, mais n'empêche, c'est un appel à recommencer. Et puis, on remarque le grand nombre de noms qui sont cités, alors que dans les autres chapitres, non. Hein, et on va pas, il ne cite pas tous les noms. On dirait que ça prend la forme là d'un appel. Et le chapitre suivant est consacré à ce qu'il appelle les amis de la cantine. Et on voit à ce moment-là que ce restaurant de quartier, eh bien, il s'ouvre sur autre chose que le quartier. Et notamment, j'ai choisi le lien avec les postiers en lutte.
Les postières en lutte invitées à la cantine. Stéphanie.
Page 57.
Alors, c'est autre chose. Dynamique et perspective.
Mais ça fait partie de...
Des postiers en lutte.
C'est la conclusion. Hein,
D'accord. Devant le silence médiatique et l'absence de solidarité syndicale globale, et bien conscient des enjeux qu'ils incarnent, les postières des Hauts-de-Seine ont œuvré à construire cette fameuse convergence dont tout le monde parle, mais que fort peu mettent en pratique. En occupant avec les intermittentes du spectacle le siège du Parti socialiste rue de Solferino, des discussions pour la constitution d'une coordination pour les postiers-postières de toute l'Île-de-France, les grévistes ont ouvert des possibilités qui pourraient s'avérer prometteuses pour l'avenir. Ce qui se déroule à la poste est donc à l'image de toute la société. Et pour toutes celles et ceux qui bossent avec un boulot de merde payé des miettes, avec en plus l'angoisse de ne pas savoir de quoi sera fait demain, comme pour ceux qui chôment avec la culpabilisation et le contrôle permanent, le combat des grévistes du 92 a été un bol d'air frais. L'invitation de la cantine le 20 juin 2014 a permis d'élargir encore les cercles de soutien, de sortir de l'isolement. Ainsi, se sont constitués des comités de soutien d'usagers qui allaient diffuser l'information devant les bureaux de poste et récolter des fonds pour la caisse de grève. Bel exemple de solidarité décloisonnant la lutte. La cantine a permis de comprendre comment d'autres secteurs, et notamment les usagers de la poste, donc nous toutes et tous, pouvaient renforcer cette lutte. Car si la solidarité doit être matérielle, elle doit aussi être effective et ne peut se résumer à la simple assistance financière si elle veut transformer cette solidarité en armes. Merci encore à la cantine et que vivent ces lieux de convergence effective et bien réels qui permettent de dépasser l'immobilisme des bureaucraties syndicales.
Voilà, et pan au passage sur les syndicats, et on voit cette notion de convergence qui est traitée par eux d'une façon bien, bien différente. Autre exemple de ceux qui s'appellent les amis de la cantine, et bien c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'association Auto-Mie-MIE, MIE en majuscule. Je me disais, ah, c'est l'autonomie, je vais aller voir ce que c'est. Mais non, c'est les mineurs isolés, étrangers dont ils s'occupent. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les grévistes de PSA donnés sous doigt et le collectif, il est très ancien celui-là, des Stop Extradition, né dans les années 70 et qui s'est créé avec eux depuis 2009 pour soutenir des militants allemands. La fin est consacrée au témoignage de ceux qui passent à la cantine. Il y a Mohan, le petit garçon, il y a Arnaud, mais il y a aussi, page 71, Sarah, qui dit comment elle a été reçue à la cantine.
Sarah, bienvenue dans la galère. Dans mes moments difficiles, la cantine m'a accueillie. Je suis arrivée de la Côte d'Ivoire en France en octobre 2009. C'était la première fois que je venais en Europe. J'avais des amies qui y étaient allées et lorsqu'elles en revenaient, tout le monde leur courait après. Elle revient d'Europe. Quelqu'un qui revient d'Europe, en Afrique, c'est comme quelqu'un qui a des diamants sur lui. On s'en fout du boulot qu'elle exerce ici ou de la manière dont elle passe sa vie, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est venue d'Europe. Nous, on sait que c'est un diamant qui nous est arrivé. Même si la personne ne nous donne rien, on est toujours derrière elle. J'avais envie de ressembler à ce genre de personne par curiosité. Mais les regrets sont vite arrivés. Le premier jour où j'ai mis les pieds en France, j'ai commencé à regretter. Parce que celle qui m'accueillait m'a accueilli avec ces mots. « Bienvenue dans la galère ». J'ai dit quoi ? C'est pas toi qui m'as dit de venir ? Et maintenant que je suis là, qu'est-ce que tu me dis ? Et je n'ai même pas fait un mois dans sa maison. Quand j'avais besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un pour me rendre service. Je me suis retrouvée sans abri. J'ai été logée à la cantine quand elle s'est ouverte. En fait, j'ai fait partie des premiers habitants. C'était en février 2013. Il n'y avait pas de chauffage. Je suis même tombée malade, mais je m'y plaisais. Je préférais être là qu'être chez des gens. Avant, je dormais un peu partout, au jour le jour.
Et voilà comment Sarah témoigne de ce qu'a été la cantine, un lieu d'accueil, un lieu de partage et un lieu certainement de politisation. Alors vous me direz, mais ces choses-là, ces collectifs, ça ne dure pas longtemps. Mais oui, mais n'empêche qu'ils ont existé et ça a été bien, bien important. Nous allons ne pas parler de Arnaud parce qu'on voit l'émission qui demande à prendre place, l'émission La Nouvelle Chanson des Andes. Salut à Yves et merci à Joachim qui nous a fait la technique. Here's a song that comes.